Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la marque pour cheveux Shaëri. Shaëri allie recherche dans la cosmétique française et pharmacopée ancestrale méditerranéenne, revisitant ainsi des ingrédients comme le figuier de Barbarie, l'argan, l'aloe vera ou les huiles essentielles. Tous les produits sont disponibles sur shaëri.com, au Monoprix ou chez les revendeurs agréés. Vous pouvez d'ailleurs découvrir le parcours de Meriem, fondatrice de la marque, dans l'épisode 11 du podcast. Bonjour à toutes et à tous, ici Boshra Fourti et bienvenue sur Heya. En arabe, Heya signifie « elle ». C'est parce que ce mot n'est pas suffisamment utilisé pour parler de réussite et d'ambition féminine que j'ai décidé de lancer ce podcast. Les inégalités et la sous-représentation liées au genre sont malheureusement une réalité, et une approche intersectionnelle ne fait qu'amplifier ces phénomènes. Chaque épisode est une conversation où j'invite une femme de culture arabe à venir partager son histoire et évoquer sa réussite. Mes invitées ont toutes des backgrounds et trajectoires différentes. Elles sont journalistes, entrepreneurs, écrivaines, artistes ou encore médecins, et vous serez, je l'espère, inspirées par leur réussite. L'objectif de ce podcast est double. Tout d'abord, promouvoir une image différente de la femme arabe en mettant en lumière ses parcours exceptionnels, mais aussi aider les plus jeunes ou celles en quête de renouveau à trouver des rôles modèles et ambitionner leur avenir. Ma conviction ultime est que la seule manière d'y croire, c'est de le voir, ou en l'occurrence l'entendre. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à prendre quelques minutes pour le noter 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre invité du jour. Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Laila Mamou, directrice de l'engagement citoyen chez Crédit Agricole Consumer Finance et membre du comité exécutif. Laila est également très engagée et occupe la fonction de PDG au sein de l'association Injaz El Maghrib. Vous l'aurez compris, Laila a une carrière exceptionnelle et a déjà figuré à plusieurs reprises dans le classement des femmes les plus puissantes du monde arabe établi par Forbes. Dans cet épisode, Laila revient sur son enfance à Casablanca, au sein d'une fratrie de 7. Elle évolue dans un environnement traditionnel, mais très jeune, elle se montre têtue et défie certaines règles établies. Cet aspect rebelle lui permettra d'ailleurs d'être l'unique enfant de la famille à suivre un cursus au sein de l'école française. Elle poursuit ensuite ses études universitaires en France, mais revient travailler sur sa terre natale, où elle exerce en tant que présidente du directoire de Wafa Salaf, une des filiales locales de Crédit Agricole. 35 ans plus tard, à l'âge de 55 ans, elle décide de sortir de sa zone de confort et accepte une nouvelle opportunité professionnelle en France, laissant derrière elle une vie très confortable. Laila revient sans filtre sur les défis auxquels elle a fait face tout au long de son parcours et évoque notamment un harcèlement subi au moment d'une promotion en France. Nous avons également discuté de leadership et de l'importance pour les femmes occupant ces postes de ne pas calquer les styles masculins. Un épisode très riche qui, je l'espère, vous procurera autant de plaisir que j'ai pris à l'enregistrer. Sans plus attendre, je laisse place à la Heya du jour, Laila Mamou. Laila, bonjour. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir à mon micro et de te compter parmi les Heya si inspirantes que j'ai reçues jusqu'à ce jour.
Merci Boshra. Merci de ton intérêt.
Laila, la tradition sur le podcast Heya, c'est de commencer par les origines. Si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, l'éducation que tu as eue, le type d'environnement dans lequel tu as grandi ?
Alors, je suis marocaine, hein, de père et de mère Fessi, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'ils sont de la ville de Fès, ils se sont mariés et ils sont allés à Casablanca, donc je suis née à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca. Mon père n'est pas allé à l'école, il a commencé à travailler à l'âge de 9 ans. Et maman, elle a étudié jusqu'en CM2 et ensuite elle s'est mariée. À 18 ans, maman, elle avait déjà 3 enfants, dont moi qui étais au milieu de 2 garçons. Après, elle en a eu, au final, on est 7 frères et sœurs. Une famille très traditionnelle, très conservatrice, pieuse, mais pas dans la manière où on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que la religion... ça faisait partie de notre éducation. On faisait la prière à la maison, mais sans. Et c'était point final, quoi. Il n'y avait rien qui se passait autour. On menait une vie tout à fait normale. Voilà. C'est aussi j'ai grandi dans une famille où bon, ma mère étant au foyer, les week-ends, c'était le ménage. On faisait beaucoup de ménage, on aidait la maman. Même si on avait une femme de ménage, pour maman, c'était important que tout le monde aide et qu'on ne pouvait pas nous rester assis, se faire servir. Et ça m'a beaucoup servi durant toute mon éducation. Ensuite, sur les 7 frères et sœurs, comme je dis, je suis la cadette, je suis la plus grande des sœurs. Avec le temps, j'ai pris le lead, hein, je suis devenue comme l'aînée de la famille. Mais en fait, j'ai une spécificité par rapport à mes 6 frères et sœurs. C'est que dès l'âge de 4 ans, j'ai commencé à faire de la danse classique. Non pas parce que mes parents, de toute façon, mes parents, ils ne savaient même pas ce que c'était que la danse classique. Ça m'avait été prescrit parce que je suis née avec un pied beau et première chose à faire, c'est de faire de la danse classique en attendant de voir si ça allait se résorber. Et donc, quand mon père m'emmenait à la danse, pour lui, c'est comme s'il m'emmenait chez un kiné, quoi. C'était pas... D'ailleurs, quand il a compris que c'était de la danse et que je faisais les ballets, mon père n'est jamais venu me voir danser en collant devant tout le monde. Voilà, c'était pas du tout sensible au sujet. C'est la première différence avec mes frères et sœurs. La deuxième différence, c'est que j'étais très très têtue quand j'étais petite et je n'aimais pas, comme on dit, le hagra. Et en fait, quand quelqu'un me demandait, mon père ou un oncle, est-ce que tu peux m'amener la télécommande, dans ma tête, je me disais, pourquoi lui, il ne se lève pas pour aller la chercher, la télécommande, pas moi. Et bien sûr, je n'osais pas le dire. Hein. Et donc, je me prenais une petite raclée, deuxième raclée, rien à faire. Je disais, dans ma tête, pas à moi de me lever, il a qu'à se lever lui-même. Et c'était que des choses comme ça tout le temps. Et ma mère, elle s'est dit, elle a peut-être un brin dans la tête, cette fille. Donc, elle m'a emmenée voir mon pédiatre qui m'avait prescrit la danse classique. Il a dit, je pense que ma fille, elle n'est pas normale. J'ai l'impression qu'elle fait tout pour avoir des fessées, pour être grondée, pour être punie. Et il lui a dit, écoute, moi, j'ai vu votre enfant naître, elle est normale. Elle est juste peut-être un peu têtue. Moi, je vous conseille de la mettre dans une école française. Et c'est comme ça que moi, je suis rentrée à l'école française. Mon père étant un grossiste, il vendait des fruits. Et son magasin, il était en face de l'école Claude Bernard, qui était l'école, comme on dit chez nous, de la mission. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en faisant un cursus franco-marocain, mais plutôt français, en faisant de la danse sur les 7 frères et sœurs. Donc, j'ai eu... En même temps, une éducation très traditionnelle, avec bien sûr un père très présent. Hein. Nous, quand ton père rentre, tout le monde se tait. Hein. Il n'y a pas, il y a plus de hess. Hein. On respire, c'est tout. On exagère, mais bon, c'était un peu comme ça. Le père, c'est patriarche. Quand il rentre, c'est le respect parce qu'il se réveille à 4 heures du matin pour aller au marché de gros, donc forcément quand il rentrait à midi, il fallait le calme pour sa sieste, etc. Donc tout tournait autour du respect du père, et en même temps, à côté de cette éducation très dans le respect, ce côté, un petit peu ma petite bouffée d'oxygène, c'était la danse. Et donc j'ai dansé jusqu'à l'âge de 26 ans. C'est d'avoir fait une école qui épouse une autre culture, et donc j'étais vraiment sur les deux cultures, hein. Je ne me sentais pas française, mais presque, voilà. Et donc j'ai grandi dans cet environnement, mais toujours avec un rappel à l'ordre, c'est-à-dire que mon père, il m'interdisait d'écouter de la musique française à la maison, de parler français, voilà, ça c'était l'école, aimer la maison, voilà. Donc j'ai eu vraiment là. Éducation très traditionnelle jusqu'en terminale. Donc quand j'ai eu mon bac, forcément j'ai eu envie d'aller en France, puisque quand on est à l'école française, l'issue c'est d'aller en France. Il faut savoir que mon père n'a jamais pris l'avion. Il savait même la France, il voyait ce que c'était, mais de loin quoi. Et ma mère, c'était la première fois elle aussi qu'elle prenait l'avion. Elle m'a accompagnée. Et entre maman et moi, il y a 15 ans, donc tout le monde pensait que c'était ma grande sœur. Donc elle est venue m'installer, voilà, on est resté ensemble un mois, elle m'a installée à Aix-en-Provence, avec toujours cette peur de dire, mon père m'a dit deux choses à l'aéroport. Il m'a donné un billet aller-retour, il m'a dit, ça c'est un billet, allez, et tu as le retour en juin. Quand tu reviens en juin, tu m'amènes le document comme quoi tu as réussi. Si tu réussis, je te redonne un deuxième billet aller-retour. Tu réussis pas, tu restes chez toi. Donc ça c'était [S2] Wow. [S1] La première chose. La deuxième, c'est, crois pas que tu vas être là-bas, tu vas être libre. Je peux arriver à n'importe quel moment. Et donc, pendant mes 5 ans d'études, je me disais toujours, Si je sors, il va venir.
Il va...
Mais sauf que, je le répète, il avait jamais pris l'avion. Et c'est sûr qu'il pouvait pas venir. Mais j'avais cette peur en disant, il vient. Donc, d'ailleurs, j'avais fait un IUT, la deuxième année d'IUT, ils nous ont mis en boîte. J'ai appelé maman pour demander l'autorisation, pour dire que je peux aller sortir. Tellement j'avais peur, parce que pour moi, il fallait absolument que j'aille jusqu'au bout. Et j'allais pas gâcher, moi, mes études parce qu'il y a une sortie ou quoi. Donc, pour dire, c'est un peu la naïveté du moment. Et tant mieux, parce que ça m'a servi. Je pense que j'aurais peut-être fait quelques conneries si j'avais pas eu peur qu'il débarque comme ça de temps en temps. Donc, voilà.
C'est hyper, ouais. C'est hyper intéressant. Merci, Laïla. Donc, tu es la seule des sept à avoir été à l'école française. Ça n'a pas été la porte pour les autres qui ont suivi. Et du coup, ça, est-ce que ça te crée aussi un peu une position particulière dans la famille? Un peu la privilégiée, peut-être ou...
Non, je ne suis pas la privilégiée. Je suis celle qu'on aime beaucoup. Je suis leur locomotive. Je suis la locomotive de ma famille. Je suis celle qui va aider à prendre toutes les principales décisions. Ma sœur veut se marier. Elle va d'abord venir me voir. Ils veulent aller en vacances. Voilà, mon père leur disait, allez voir avec votre sœur pour la date. Il dit, pourquoi c'est ma sœur qui doit décider de la date? Donc, en fait, j'ai commencé petit à petit à prendre un rôle. Mais j'ai eu cette chance. Et franchement, je pense que c'est aussi la qualité de l'éducation de mes parents. À aucun moment, ni moi, ni mes frères et sœurs n'avons senti que moi, j'étais supérieure et privilégiée. Et eux, non, il y a vraiment, et à aujourd'hui, j'ai bientôt 60 ans, je n'ai jamais ressenti ça. J'ai plutôt senti de la fierté de mes frères et sœurs vis-à-vis de moi, et autant que moi je suis fière d'eux, mais voilà, c'est différent. Mais je pense que j'ai servi aussi de locomotive pour introduire plein de choses, et c'est ce qui va aussi conditionner tout ce que je fais au niveau sociétal.
Super. Et comment se passe cette arrivée en France, Laïla? Donc, j'imagine que c'est le saut dans le vide, en quelque sorte. C'est quand même une vie différente, un autre pays.
En tant qu'étudiante?
Oui, en tant qu'étudiante, oui.
Ben, en fait, le mouvement normal, c'est que quand on a un bac français, on vient en France. Donc, je suivais un mouvement. Donc, ce n'était pas quelque chose de très exceptionnel. Par contre, quand je suis arrivée à Aix-en-Provence, j'étais acceptée à Brest et j'étais en liste d'attente à Aix-en-Provence. Mais quand j'ai vu Brest où c'était le froid, la pluie, je dis je vais, ça sera pas possible pour moi. Et comme je me rappelle, maman était venue avec moi, on est allé à l'IUT d'Aix-en-Provence. Et ma mère, elle est rentrée voir la directrice. Ma mère, elle parlait français, moyen. Bon, on la comprend. Et elle leur a dit, impossible, ma fille, elle peut pas aller à Brest, il fait trop froid, s'il vous plaît, il faut qu'elle soit là, il fait beau, le soleil, bla bla. Et la directrice, elle nous a regardé, elle nous a dit, écoutez, vous êtes trop mignonnes toutes les deux, je la prends tout de suite.
Oh.
Donc ça, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec. Sinon, j'allais me retrouver à Brest. Et donc quand je suis arrivée en France, là, vraiment deux choses m'ont choquée. Deux choses. Un, c'était la montée de Le Pen. Donc j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Le Pen et j'ai découvert qu'on pouvait ne pas nous aimer.
Ouais. Parce que juste là, ce n'était pas des questions que tu te posais. Tu faisais partie de la majorité.
Jamais. Ben moi, je suis la masse, hein. Je fais partie de la masse, la population moyenne, quoi. Je suis moyenne basse même. Mais comme j'étais dans un lycée français avec des juifs, mon ami, j'avais un ami intime, comme un frère, c'était un juif, les Français, ben, on se fréquentait. Et en fait, on se sentait pas différents les uns les autres. Au lycée. Et quand je suis arrivée à Aix, j'ai découvert cette chose. Et là, j'étais choquée qu'un Français ne puisse pas nous aimer. J'ai dit pourquoi? Parce qu'au Maroc, quand même, il n'y avait pas ça. Est-ce que ce n'est pas les mêmes Français? Est-ce que nous, moi, je n'ai pas changé? Bon, bref. Et donc, c'était des questions qu'on se pose à 18 ans. Et c'était très violent. Et j'ai découvert aussi autre chose. J'ai découvert que, ben, au Maroc, il y a aussi du régionalisme. C'est-à-dire que moi, là aussi, j'ai dit, bon, on est. On était une famille ouverte, donc dans notre immeuble, il y avait, on appelait la Tangéroise, la Fessia, la fille d'Azila, on s'appelait par les villes, on s'appelait même pas par les noms, tellement c'était normal. Mais j'ai découvert qu'il y a les Berbères, il y a les Arabes, et les uns qui n'aiment pas les autres. Et en fait, là aussi, j'ai découvert le régionalisme de mon pays, que j'ai trouvé chez les étudiants, et là aussi, je m'attendais pas. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir voilà, qu'on pouvait avoir des positions les uns contre les autres. Et ça m'a toujours gênée. Je me dis, on est, pour moi, l'humain, il est précieux et l'humain, il est le même. On ne se définit pas par rapport à sa couleur, à sa religion, à sa, l'humain, c'est, voilà, il y a une beauté dans l'humain qu'on doit, qu'on peut trouver chez tout le monde. Et ça, c'est vraiment les deux choses qui m'ont choquée quand j'étais étudiante. Sinon, au niveau des études, franchement, je me suis baladée parce qu'on avait quand même un très bon niveau au Maroc. Et donc, j'ai vraiment pas eu à bosser plus qu'il fallait. J'ai fait beaucoup de ménage, beaucoup de repassage, beaucoup de vendange aussi pour arrondir les fins de mois. Et j'y arrivais parce que je pouvais en même temps travailler et en même temps faire... faire mes études. Mais c'est vraiment les deux choses qui m'ont le plus étonnée quand je suis arrivée en France la première fois. Ouais.
Et qu'est-ce que tu voulais faire ? Est-ce que tu avais une vision claire de ce que tu voulais faire comme études ? Est-ce que le retour au Maroc était une évidence ou est-ce qu'à un moment tu t'es dit peut-être je reste ?
Alors, ce que je voulais faire, comme mon père avait un magasin, alors de temps en temps j'allais avec lui dans son magasin et j'adorais le mouvement, j'adorais ses ventes et tout, et je me disais moi j'ai envie d'être dans le commerce, dans voilà, donc je savais que je voulais être dans le business. C'est pour ça que j'ai fait de la finance. Rentrer au Maroc, c'était un non choix. C'est, je rappelle, j'ai un billet aller-retour, hein. Et à la fin je rentre. En fait, je n'ai même pas eu l'idée de rester, ça ne m'a même pas effleuré. C'est-à-dire qu'il y avait un deal avec mon père: tu pars faire tes études pour revenir.
Mais avoir peut-être des collègues, des amis restés, est-ce que l'idée t'a effleuré non. L'esprit, t'a fait rêver potentiellement?
Non. Non, 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 parce que bon, j'avais connu mon ex-mari qui était rentré un an avant moi, donc forcément j'attendais de terminer pour rentrer, voilà. Donc on était, nous, vraiment dans ce mood de finir les études et revenir. Et en fait, j'étais comme dans un tunnel, je n'avais pas compris que je pouvais faire autre chose en France que des études. Pour moi, je ne viens que pour les études. Alors c'est vrai que j'ai des copains qui sont restés, des copines qui sont mariées et tout, et ça me semblait étrange qu'elles restent. Et donc je suis rentrée, voilà, parce que c'était le deal. Alors c'est vrai que quand je suis rentrée, je pense que j'ai mis, honnêtement, j'ai mis 4 à 5 ans pour m'adapter et pour dire définitivement, parce qu'à chaque fois je disais j'aurais pas dû rentrer, j'aurais dû rester, j'aurais dû.
Par rapport aux opportunités professionnelles, par rapport à la mentalité, une façon de vivre.
La mentalité, non, c'était par rapport à la mentalité, parce que des opportunités, vous savez, moi je suis arrivée en 88, il y avait du boulot, quoi. J'ai trouvé du travail facilement, j'étais salariée, bon. Nous, là aussi, c'était un moule, hein. On fait les études, on va en France, on revient, on rentre salarié, voilà, c'était pas, il n'y avait pas tout ce truc autour des start-up, de l'entrepreneuriat. Nous, le Graal, c'était de rentrer dans une banque et de travailler. Donc, pour moi, c'était le deal de revenir et de, par contre, quand je suis rentrée, je me suis dit, vu comment ça se passe au travail, la mentalité, est-ce que j'aurais pu rester? Et donc, j'ai quand même passé, voilà, 4-5 ans, à douter de ma décision de rentrer. Après, bon, j'ai fait mes enfants, et puis ça y est, je suis rentrée dans le moule. Mais ça n'a pas été facile. Alors que je suis restée en France que 5 ans. Mais je suis un peu rebelle. Donc,
on a compris.
Au travail, ça a été... c'était compliqué. Au travail, voilà, je n'aime pas la... j'aime la discipline, mais je n'aime pas qu'on me commande, en fait. Je déteste qu'on me dise.
Et tu penses que c'est de ta position de femme ? Est-ce que c'était, tu penses, le fait d'être une femme dans un milieu bancaire, financier, qui, à l'époque et même aujourd'hui, n'est pas toujours le plus diversifié, en tout cas dans les rôles les plus importants ?
En fait, honnêtement, j'ai jamais senti que ma position de femme générait quelque chose de négatif. Je ne l'ai pas senti. Ça ne veut pas dire que ça ne se faisait pas.
Bien sûr, bien sûr.
Je pense qu'il y avait du sexisme. On m'a dit des choses, mais je laissais couler et je passais à autre chose. Par exemple, un fait quand même qui m'est arrivé quand j'étais en train de chercher du travail. Et je me suis rappelée de ce fait en préparant une autre conférence. Ça date de moins de 2 mois. Quand je suis rentrée au Maroc, j'ai passé un entretien dans une banque. Et j'ai passé 5 ou 6 entretiens. Et à la fin... Je monte, le DRH monte avec moi pour voir le grand patron de la banque. Et à peine je rentre, je m'assois, il me regarde, il regarde son DRH, lui dit « Mais c'est une femme ». Et moi, je le regarde, je lui dis « Mais vous avez vu ma photo sur le CV ? Vous avez bien que je suis une femme, je ne suis pas un garçon manqué en plus, je suis très féminine ». Je dis, oui, mais moi, je veux quelqu'un qui voyage. Je dis, mais je viens d'entrer de France, je voyageais. Ouais, mais c'est pas ce qu'on fait. Je dis, bah, ok. Et en fait, je me suis levée, je suis partie. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai dit, mais ça fait six entretiens pour me dire ça. Donc, ça m'a vraiment énervée. Et j'avais pas de boulot, hein. Je venais de rentrer, je cherchais du boulot. Donc, j'aurais pu dire, oui, mais bon, il faut accepter. Non, je suis partie. Le lendemain, le DRH m'a appelé. Il me dit, Léla, c'est toi qu'on veut. J'ai dit, mais c'est moi, c'est pas vous que je veux.
Wow.
Voilà, c'est clair. Il me dit, mais non, mais. J'ai dit, non, c'est vicieux votre façon de faire des entretiens. Vous m'appelez, vous me déstabilisez pour voir si je tiens le coup, pour le lendemain me dire, ben, finalement, c'est toi que je veux. Eh ben, moi, je viens pas travailler avec des gens comme vous parce que vous êtes pas sain. Et je suis partie. Et en fait, ça m'est complètement sorti de la tête, cette histoire. J'ai continué à vivre. Et en fait, je pense que je suis un peu amnésique. Les choses qui m'embêtent, je les efface vite. Je les garde pas. Et c'est comme ça que j'ai oui, bien sûr qu'en tant que femme, j'ai dû déranger, j'ai dérangé. Mais moi, je trace, je sais ce que j'ai à faire. Je ne crois qu'en une chose. Et c'est ce qui m'a sauvée, quand je dis sauvée, vraiment, c'est le terme, ce qui m'a sauvée toute ma carrière, ce qui m'a aidée à avancer, c'est que je crois en une chose. Allez, je vais dire deux. Une, c'est ma compétence. Je sais ce que je vaux. Je sais que je suis capable de travailler beaucoup. Je sais que je peux donner du meilleur du moi-même. Et la deuxième chose, c'est mes valeurs. Je ne transgresse pas avec mes valeurs. J'aurais pu travailler dans ce poste-là en disant, ouais, super, finalement, il m'a appelé. Mais j'ai pas besoin de vous. Et je suis restée, j'ai voulu trouver du travail un mois après, mais j'ai jamais regretté. Parce que je ne peux pas travailler avec des gens qui me traitent comme ça. C'est pas possible. Donc le respect, c'est quelque chose qui est important et je ne transige pas avec ça. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Vous savez, quand vous respectez beaucoup, vous vous faites respecter. Le respect vient pas comme ça. C'est parce que vous vous faites respecter. Vous vous mettez pas dans n'importe quelle situation. Vous attirez le respect. Ça, c'est clair. Surtout les femmes. Les femmes, on doit attirer le respect.
Absolument. Après, ça, on se laisse parfois impressionner, mais c'est vrai que c'est très important de se rappeler ça, qu'on se doit le respect.
Personne ne me doit rien. J'ai fait mes études. Si je travaille pas ici, je travaillerai ailleurs. Mais jamais j'accepterai que quelqu'un me c'est le terme de hagara, je ne supporte pas.
Bien sûr.
Je supporte pas. Ouais.
Mais là, je vais avancer un peu ta carrière. Donc, je t'ai présenté au début. J'ai fait ton CV impressionnant et les rôles que tu as eu au Maroc. Je vais peut-être un peu se concentrer sur ton retour en France. Et je trouve ça très intéressant, cet aller-retour. Et peut-être avoir maintenant ta vision, je sais pas combien d'années après, mais plusieurs années plus tard, avec ta position, ton expérience, la maturité aussi. Ce retour en France, est-ce que ça a été une évidence de revenir? Est-ce que tu as douté? Aussi, parce que même si au début tu parlais de ce doute, je regrette, j'aurais peut-être dû rester. À un moment, on est installé au Maroc, il y a une qualité de vie, il y a beaucoup de choses qui sont là et c'est pas toujours facile d'y renoncer.
C'est clair. Alors, je suis revenue après 35 ans et en fait, j'ai rejoint mon actionnaire minoritaire qui est le Crédit Agricole. Donc, on va dire que je suis dans un environnement un peu connu. Par contre, c'est vrai que j'ai changé de vie. Au Maroc, j'étais déjà DG depuis 14 ans, bien installée, connue, reconnue, hyper médiatisée, le classement de Forbes 3 fois, enfin les trucs, voilà. Et mes enfants, moi, ils sont restés en France, ils ont fait leurs études, ils sont restés en France. Et entre-temps, bon, j'étais seule au Maroc et je me disais, mais moi, je n'ai pas fait des enfants pour aller voir une semaine par an. Et donc, j'ai eu envie de rejoindre mes enfants, de profiter d'eux tant que je peux, hein, parce qu'une fois qu'ils vont faire leur vie, qu'ils vont eux-mêmes avoir leur, voilà, qu'ils vont construire leur nid et tout, ils vont être pris. Et donc, profiter d'eux tant que je peux. Donc, ça a été un choix familial, ça a été un choix aussi ça faisait 14 ans que je dirigeais l'entreprise au Maroc, même si c'était la première entreprise crédit à la consommation, vraiment une très belle success story, de super résultats, etc. J'avais envie aussi de vivre autre chose, de sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai que j'ai fait un saut dans le vide parce que je passe de la maison, de ma cuisinière, de mon chauffeur, de tout le staff qui vous rend la vie assez sympa, à se lever le matin, à lancer ses 2 machines, la vaisselle, la linge, voilà. Dans un petit appart. Et mon fils, quand j'avais discuté avec mes enfants pour leur dire « je vais aller en France », première réflexion, dit mais maman, est-ce que tu vas avoir l'énergie de déménager et d'installer? Parce que je les ai installés tous les deux dans le cadre de leurs études, Toulouse, La Rochelle, Madrid, Nice, bref, je les ai suivis partout et à chaque fois je les ai installés. Et ils voient le travail, ils m'ont dit, mais est-ce que toi, tu vas avoir l'énergie pour t'installer? J'ai dit, ben ouais, j'ai décidé à 54 ans de me rapprocher de mes enfants, d'épouser une nouvelle carrière, de vivre une nouvelle vie. Et franchement, ça m'a régénéré, ça m'a fait beaucoup de bien parce que bon, ben, je commençais un peu à travailler et à vivre de manière très... ça commençait à être ennuyant, je m'ennuie très très vite. Après, on m'avait dit, Leïla, attention, tu vas aller en France, il faut comprendre les codes. Je dis, bah moi, les codes, même pas peur, je les connais, les codes. T'inquiète, moi j'ai fait l'école française. Mon actionnaire avec qui je travaille, parce que j'ai créé la première filiale Sofinco au Maroc. Donc forcément, je les connais. Et en fait, j'avais sous-estimé cette notion de code. Je l'avais complètement sous-estimé parce que parler français, c'est une chose, et comprendre les codes français, c'est autre chose. Et là, il faut se préparer. Et moi, je suis rentrée dans un groupe qui est très codifié, qui est très, Crédit Agricole, c'est une banque très ancienne, qui a son fonctionnement. Et ce qui m'a sauvée, moi, dans mon intégration dans le groupe du Crédit Agricole, c'est vraiment les valeurs. Parce que je porte les valeurs du groupe. Elles sont en moi, je me suis reconnue, ça a résonné en moi. Et là, ça m'a aidé à faire l'effort de comprendre ces codes. Et les codes, c'est quand j'ai compris que au bout de la deuxième phrase, on sait qui vous êtes, d'où vous venez, comment tout de suite on vous case. Et ben forcément, les deux premières phrases, on commence à faire attention. Dire ok, comment je et c'est comme ça, comme quand les moi j'ai travaillé avec beaucoup d'expats en France qui étaient dans mon comité de direction, eux aussi m'ont dit la même chose. On vient au Maroc, on vous parlez tous français, mais on n'a pas les mêmes codes, il faut s'intégrer. Et je trouve qu'il y a ce travail là j'avais vraiment sous-estimé, mais j'ai eu la chance de rencontrer des équipes fabuleuses. Et donc moi j'allais vers eux en leur disant, écoutez, aujourd'hui, je suis patron, mais venez me faire des feedbacks. Quand je prends la parole, quand je suis dans un workshop, je vais voir une ou deux personnes et je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un feedback à la fin de la réunion, à la fin du workshop? Dis-moi qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites qui peut-être ne collent pas avec votre façon de travailler? Et en fait, je suis tout le temps allée chercher ces feedbacks. Et quand je suis allée, c'est ces feedbacks qui m'ont aidé à me réajuster. Moi, je suis très spontanée.
On te les donnait facilement, on était transparent et honnête, c'était pas du faux feedback.
Non, parce que je suis quelqu'un de très transparente et très authentique. Et je sais reconnaître les gens authentiques. Et je leur dis pas, j'attends que vous me disiez, voilà et là, mais c'était top. Mais c'est pas ça que j'attends. D'ailleurs, quand on me dit c'était bien, ça m'aide pas à avancer. Quelqu'un qui vous dit, ouais, t'étais bien, c'était top. Ouais, mais ça m'aide pas. Et donc, j'allais et je m'appuyais sur des gens en qui j'avais vraiment confiance, en disant, s'il te plaît, voilà, je vais faire ça et ça. Est-ce que tu peux me faire un retour?
Mais ça a dû étonner parce que c'est pas courant, ça, Leïla. Et encore moins dans des positions de leadership.
Oui, ça a beaucoup étonné. Et vous savez quoi? Ça a forcé le respect.
Je ne peux qu'imaginer, oui.
Ça a beaucoup forcé le respect parce qu'ils se disent, et ils me le disent, ils me disent, t'es patron, t'es humble. Tu roules pas les mécaniques et tu es consciente que tu peux avoir un comportement, une façon de faire qui peut soit être différente et plaire parce que c'est nouveau, soit peut-être... Et j'avais des gens qui me disaient attention, ici il vaudrait mieux ne pas le faire comme ça. Et moi j'écoute. Et quand on me dit, je crois parce que bon, avec ça aussi, c'est la bouteille et l'âge. Je sais reconnaître quelqu'un de fake et quelqu'un d'authentique.
Bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est aussi cette différence, c'est la différence d'un leadership féminin versus un leadership masculin? Parce que jusqu'à ce jour, enfin, c'est pas un scoop. La majorité des leaders sont masculins et il y a souvent une manière d'être patron. Ou en tout cas, ça rentre vraiment dans des cases assez... Et même certaines femmes, et c'est le reproche qu'on entend parfois pour la nouvelle génération qui monte, disent oui, il y a quelques femmes, mais les femmes se comportent comme des hommes. Elles recopient l'ancien leadership qui était un rôle. Est-ce que je peux comprendre? Et toi, tu viens en étant humble, ouverte, donnez-moi du feedback, je m'adapte, je suis souple, je vous écoute. Est-ce que tu penses que c'est un critère peut-être plus féminin que masculin?
Je ne saurais pas le dire, honnêtement. Par contre, ce que vous dites m'interpelle, et moi j'ai toujours dit dans toutes mes conférences, à chaque fois que je me suis adressée aux filles, aux femmes, je leur dis, si votre ambition, si vous voulez ressembler à un homme, si vous voulez vous comporter comme un homme, pour moi c'est que vous avez très peu d'ambition.
Ouais.
Faut pas ressembler à un homme. Et pourquoi je le dis? Parce que là aussi, la force du feedback, j'étais au Maroc, j'ai animé une conférence, mais alors là, parce que j'adore organiser une conférence sur une journée, il y avait quelqu'un, il y avait un consultant. Et j'ai dit à ce consultant, je ne connaissais pas très bien, j'ai dit, écoute, s'il te plaît, j'aimerais bien à la fin de journée, j'aimerais que tu me fasses un feedback sur voilà, l'alliance avec les équipes, voilà, j'ai pris les sujets sur lesquels j'ai envie de travailler. Alors j'ai mené ma conférence, mais j'étais, super. Et j'arrive en fin de journée et je m'attendais vraiment à ce qu'il me fasse un feedback en me disant « Ouais, c'est super, t'es impressionnante, ouais. T'as fait. » Parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire dans la journée. Et il me regarde et il me dit « Écoute, Leïla, moi, tout ce que j'ai vu, c'est une femme qui se comporte comme un homme. »
Waouh.
Et là, j'étais choquée. J'étais choquée de moi-même en me disant « Ben non, moi, je combats ça. » Il me dit « Non. La manière dont tu donnes les ordres, la manière dont tu parles, fais attention. » Il me dit, ouais, t'es féminine, parce que bon, voilà, je sais pas. Mais honnêtement, j'ai trouvé que tu étais plus dans imiter un mec que toi-même. Et là, ça a été, vous savez, les coups de pied positifs, ça en fait partie. Et je m'étais énervée. J'ai dit,
oui, ça le paye en plus, il me dit accusé, ça. Accusé, ouais.
Mais bien sûr. Faut pas croire. Quand on demande un feedback, faut être solide. Parce qu'on s'apprend, on se prend une claque. Ça a été une claque. Et après, passer 24 heures en me disant, franchement, elle est nulle, blablabla. Non. Et je commençais à me regarder comment j'étais dans la journée. Et en me disant, bon, s'il y avait 1% de vrai dans ce qu'il m'avait dit, il serait où? Et effectivement, dans ma façon d'être, dans ma façon de placer l'autorité, etc., eh ben, j'ai retravaillé tout ça. Et c'est à partir de là où j'ai dit attention à les femmes, faut pas vouloir ressembler à un homme. Et on peut le faire de manière inconsciente parce que tous les patrons que j'ai eus, j'ai jamais eu de patron femme. Je n'ai jamais.
Mais c'est ça. On n'a pas de modèle, donc c'est compliqué
de
s'inspirer.
On n'a pas de modèle.
Ouais.
Et c'est là la force du réajustement, c'est de se dire bon, comment tu m'as vu, sur quoi j'ai intérêt à travailler. Et depuis toujours, je demande le feedback. Alors, il y a des feedbacks qui font mal au ventre, hein. Vraiment. Après, c'est charge à moi de les prendre ou de pas les prendre.
Et j'imagine qu'il y a des feedbacks qui te renvoient à imiter un homme. Si c'est un feedback qui vient d'un homme, il peut être dérangé par ta manière de faire qui est plus de ta personne et te renvoyer plus à ce qui lui parle à lui. Est-ce que c'est des choses que tu essayais de lire?
Non, je pense que dans ma façon, en fait, je suis très autoritaire, très carré, très truc, et donc chez moi ça déroule quoi. Et donc, ça peut paraître un peu brut. Et donc, j'ai commencé, j'ai travaillé sur moi pendant 8 à 10 ans. Hein. Je fais beaucoup de développement personnel, mais pas le développement nunuche où la vie est belle. Non, c'est je veux travailler sur ma capacité à bien écouter. Je veux travailler sur ma capacité à entendre des choses négatives sur moi et à faire le tri. Moi, je ne prends pas tout. Les feedbacks, il y a des feedbacks qu'on me dit, mais qui ne résonnent pas en moi. Ben, je ne les prends pas. L'idée, c'est pas de se tordre la tête et de, voilà, de, non, l'idée, c'est vraiment, qu'est-ce que dans ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qui m'interpelle, et s'il y avait 1% de vrai sur ce sujet-là, qu'est-ce que je dois faire? Et ça m'amène vraiment, et ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup aux jeunes filles qui commencent dans la carrière, c'est que, en fait, il y a la phase des études, et après, on commence à travailler. Et nous, on pense que, une fois qu'on a fini les études, on commence à travailler, et c'est tout. Or, si on n'a pas compris qu'à peine on commence à travailler, qu'il faut continuer à apprendre. Et en fait, la formation, l'apprentissage, il est en permanence. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait et qu'on arrête et qu'on imposte. Et après, je veux faire quelque chose au bout de 4-5 ans. Allez, je vais faire ce module. Non, il faut vraiment, dans sa carrière, laisser du temps pour l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a un phénomène nouveau. C'est l'obsolescence de la connaissance. Vous apprenez quelque chose, mais cette chose, au bout de 12-18 mois, elle est déjà dépassée.
Exactement. Et de plus en plus vite, avec tout le progrès.
Et de plus en plus. Et donc, ce progrès, l'évolution, rester agile, grandir avec son époque, évoluer avec son époque, On n'a pas le choix, on est obligé de continuer à se former, à avoir des feedbacks, à être dans des groupes de réflexion, à se nourrir. Il faut continuellement se nourrir de gens positifs. Même, on peut même faire un cercle de philosophie. L'idée, c'est d'avoir un sas où on peut faire travailler ses neurones, on peut faire travailler sa réflexion, et ça, c'est très important. Et quand on est une femme, qu'on travaille, qu'on a le mari, les enfants, qu'on a la tête sous l'eau, qu'on ne sait plus où on habite, venir dire, eh ben, je t'en rajoute encore une couche qui est aller encore faire de l'apprentissage, ben oui, il faut trouver de la place pour ça. Il faut lui trouver une petite place.
Laïla, comme je disais, j'ai présenté en intro ton parcours exceptionnel. J'imagine que ça n'a pas été une marche, une promenade de santé. J'imagine qu'il y a eu des challenges. Si tu ne devais en retenir un, si tu devais penser à ton plus gros challenge, la chose qui a été la plus difficile à surmonter, ce serait quoi?
Dans le terme challenge, pour moi, j'y mets les gros projets professionnels. J'en ai eu plein, j'ai fait des fusions, ça a été très dur, etc. Il y a un événement dans ma vie professionnelle qui m'a retourné et qui m'a fait beaucoup de mal, c'est un harcèlement que j'ai subi quand j'étais nommée directrice générale en 2004. Je pense, j'étais aimée de mes équipes, j'aimais mes équipes. Et vraiment, quand j'utilise le terme aimer, je sais que est-ce qu'on aime nos équipes. Eh bien, moi, j'aime mes équipes. Quand je pars en congé et que je reviens au bout de 3 semaines, je leur dis, bon sang, vous m'avez manqué. Peut-être qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, c'est vrai. Voilà, et je le dis. Et donc, quand j'ai été nommée, j'ai eu un harcèlement anonyme. Hein. J'ai jamais su, j'ai quelques doutes, j'ai jamais su qui c'est qui m'a harcelée. J'ai été harcelée pendant plus de 2 ans par des courriers anonymes, par des... qui m'attaquaient sur les mœurs. Et ça, ça a été violent parce que je ne m'y attendais pas. Et en fait, j'ai découvert la violence humaine, j'ai découvert la méchanceté humaine. Je ne dirais pas que j'ai grandi dans un monde du bisounours, mais il y a quand même une limite. Et donc, c'était un acharnement sur moi pendant plus de 2 ans et demi.
Mais par rapport à tes compétences, par rapport à ce que tu faisais au travail ou plus personnel?
Je vais vous la faire très courte, très courte. Une femme qui est nommée DG, si elle est là, c'est qu'elle a forcément couché avec d'autres personnes. Voilà. Donc, c'était sur les mœurs. Donc, j'étais attaquée sur les mœurs. Pas sur ma compétence, au contraire, j'étais très très reconnue, très crédible. Et en fait, ce qui m'a sauvée, et là aussi, c'est les 2 choses qui m'ont sauvée, c'est vraiment ma compétence en me disant, écoute Laïla, tu n'es pas là par hasard. Si on t'a mis, c'est parce qu'on croit en toi. Alors, il ne faut pas décevoir ceux qui ont cru en toi. Il ne faut pas faire le jeu de 2, 3, 4 personnes qui sont malveillantes. Elle l'aurait été avec n'importe quelle personne. Et donc, sois à la hauteur de la confiance qu'ont mis en toi les personnes qui t'ont choisi. Et c'est ça qui m'a guidée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment mes valeurs, en me disant, j'ai rien fait, j'ai rien à me reprocher, je dois rester droite dans mes bottes. Alors, je ne vous cache pas que quand je rentrais chez moi, je pleurais le soir. C'était très dur. Mais quand je venais le lendemain, stoïque, j'étais droite dans mes bottes, j'étais... presque dur avec moi-même en me disant « Mais non, Laïla, tu vas quand même pas te lamenter, ça arrive à tout le monde, tu es dans un poste qui est jalousé, on te tape dessus parce que tu es patron, pas parce que tu es femme, parce que j'ai aussi d'autres copains patrons qui ont eu le même problème, sauf que eux on va leur dire « T'as volé, t'as touché de l'argent dans tel ou tel marché. » Donc, c'est pas moi, Laïla, c'est « Voilà, écoute, j'ai été la cible de groupe et de méchanceté humaine. » Et je suis allée demander de l'aide une fois à un patron que j'estime énormément. Il m'a dit, Laïla, je ne peux rien faire pour toi. Tu as ce qui t'arrive. Tu vas être seule. Par contre, je te promets qu'en sortant de ce problème, tu vas avoir une nouvelle carapace et tu vas être prête à affronter de nouveaux défis. Et je l'ai détesté quand il m'a dit ça parce que je n'ai pas envie de t'affronter de nouveaux défis. Moi, je veux sortir de là où je suis. Et je suis restée, tous les jours, il y avait des courriers anonymes partout, ils arrivaient par courrier, je trouvais des tonnes de courriers à la porte de mon bureau, dans les salles de réunion, bref, il y en avait de partout. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est mes équipes, ils ont compris, ils ont commencé à faire disparaître ces courriers, à me préserver, et en fait, ils m'ont tellement préservée que j'ai eu envie de leur rendre, et leur rendre, c'est quoi? C'est en restant très focus sur mon métier. J'étais en pleine fusion. J'ai fait une fusion très rapidement, qui a duré moins de 18 mois, ce qui est une prouesse. Et voilà. Et on a, eu un développement et la boîte, elle s'est développée. Et voilà. Donc ça, c'était dur. Mais deux choses m'ont aidé. Et aussi ma spiritualité aussi, là. J'étais très, très pieuse. Je suis allée à la Mecque. J'ai fait le petit pèlerinage, le grand pèlerinage pour un petit peu pour me nettoyer de tout ça. Et ça a marché. Et au bout de 2 ans et demi, ils se sont arrêtés tout seuls et j'ai continué à faire mon chemin tranquillement.
Mais c'est long, 2 ans et demi, Laïla. Bravo, c'est très,
c'est
très long.
C'est long et je n'ai pu en parler comme je vous en parle aujourd'hui que 5-6 ans après. J'ai jamais pu en parler. Et à aujourd'hui, je suis incapable d'ouvrir un courrier. Si je ne sais pas, s'il n'y a pas l'expéditeur, je ne peux pas l'ouvrir. Tout de suite, ça me revient.
Mais j'imagine, mais bon, c'est un trauma, après, c'est un vrai traumatisme.
En fait, c'est aussi une occasion de savoir que on peut être entouré aussi de que l'humain, il y a tout dans l'humain. Et par contre, j'ai développé une capacité à me rapprocher et à être attiré que par des gens positifs. Dès que je sens qu'il y a un truc qui va pas, je m'éloigne. Voilà, j'ai une façon de réagir qui me protège de tout ça. Mais en parallèle, j'ai beaucoup bossé. Donc en parallèle de tout ça, ça m'a pas anéanti. J'ai travaillé, j'ai délivré de bons résultats et c'est ça qui m'a sauvée.
Question très bête, Laïla. Quand ce genre d'événement se passe, honnêtement, j'en avais pas connaissance, hormis ce que tu viens de me raconter, j'ai pas d'autres exemples autour de moi. Donc, je te remercie infiniment de le partager parce que je pense que ça donne de la force aux gens qui nous écoutent. On a parlé dans d'autres épisodes de cyberharcèlement, ce qui est similaire, une forme similaire. Et c'est vraiment un moyen d'invisibiliser des femmes, des hommes, des gens de minorité ethnique. Enfin, quelle que soit la raison, c'est vraiment un moyen d'invisibiliser parce qu'à un moment, on peut en avoir marre et se dire pourquoi je subis tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une aide qui est faite, là ça se passe en entreprise, une enquête, quelque chose pour retrouver ces personnes et arrêter le mal où il est ?
Bien sûr, j'aurais pu, alors moi j'ai voulu aller bien sûr déposer plainte, mais on m'a dit quand tu vas déposer plainte, on va venir convoquer des personnes au commissariat et on va convoquer des gens qui ont peut-être rien fait. Et moi je leur ai dit, est-ce que vous allez convoquer des femmes ? Il m'a dit, ben oui, forcément. Et moi, j'ai dit, je ne dépose pas plainte. Il est hors de question que les femmes qui travaillent avec moi soient convoquées au commissariat. Parce que chez nous, être convoquée au commissariat, c'est quelque chose d'impossible, d'impensable. Imaginez une mère de famille, une femme, son mari va savoir qu'elle est convoquée au commissariat, mais c'est quoi ça? Et donc, quand j'ai su qu'on allait peut-être taper dans le tas et commencer à convoquer plusieurs femmes, j'ai dit, stop, je ne déposerai pas plainte. J'aurais pu, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu voir mes équipes aller au commissariat, c'était pas possible pour moi. Et j'ai aussi été attaquée dans Facebook. On m'avait pris ma photo, des choses ignobles. Mais c'est horrible. Et donc il a fallu attendre 4-5 semaines pour pouvoir supprimer toutes ces photos qu'il y avait. Et là par contre on a déposé plainte et c'était deux jeunes. Ils ont pris quand même 6 mois de tôle. Hein. Parce que c'était gratuit, je ne les connaissais même pas, c'était des gamins qui ont voulu jouer ou orienter par quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était quelques années après, j'ai eu ça, mais ça c'était, on a mis les avocats et la police sur le sujet. Et voilà, mais oui, bien sûr, quand on est visible, on est envié, on est jalousé. Et il faut le savoir aussi, quand on a envie, il ne faut pas couper son ambition parce qu'on a peur d'être visible et d'être visé. Parce qu'à côté de ça, on est tellement des rôles modèles pour d'autres personnes. D'abord pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour mes neveux. Nièce et neveux, j'en ai 13, 14. Voilà, et je veux dire, on est un rôle modèle pour notre environnement. Et ça serait dommage d'accepter de s'effacer parce qu'il y a 1 ou 2% de gens qui ne nous aiment pas, parce qu'ils sont juste jaloux. Moi, je n'ai jamais laisser ces gens-là me gagner parce que, par contre, il faut vraiment être droite dans ses bottes, n'avoir rien à se reprocher.
Absolument. Merci en tout cas d'avoir partagé ça. Laïla, je voulais revenir, en plus de ce parcours exceptionnel et des divers postes que tu as eu au sein du groupe Crédit Agricole, tu es quelqu'un de très engagé, entre autres au sein de l'association Enjez El Maghreb, dont tu es président directeur général. D'où est venue cette volonté de t'engager? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie ou un moment où tu t'es dit, en plus de mon job qui me prend 20 heures sur 24, je veux aussi m'engager et faire quelque chose?
Comme je vous ai dit, je suis la seule, au niveau de mes frères et sœurs, à avoir fait l'école française, à avoir une éducation différente. Et je me dis, ben, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir fait les études là où je suis, ben moi je vais aller vers eux et je vais aller leur apporter dans leur classe ce que eux n'ont pas pu avoir en venant dans mon école et dans mon lycée. Le déclic, il est venu quand on a voulu fêter les 20 ans de ma boîte au Maroc. On s'est dit, comment est-ce qu'on va fêter les 20 ans? Et on a mis un petit groupe de travail et on s'est dit, il faut qu'on donne quelque chose à notre société. Et en fait, ce qu'on a eu envie de donner, c'est 20 heures de notre temps bénévole, de manière bénévole, pour des cours de soutien pour des jeunes d'école primaire. Et donc là, on a appelé une association, Algistre, et pour donner l'exemple, j'ai dit, ben moi, je vais prendre une classe de CE2. J'ai pris une classe de CE2, donc je faisais français, et j'y allais toujours avec un collaborateur à moi, parce que comme je voyageais beaucoup, j'ai dit, comme ça, si je ne suis pas là, au moins tu fais la classe. Et en fait, quand je suis arrivée, que j'ai vu, c'était la première fois de ma vie que je rentrais dans des écoles publiques, là où mes frères et sœurs ont étudié, et j'ai vu l'écart, et j'ai vu tout ce qu'il y a à faire, et là, j'ai dit, Léla, je ne peux pas, moi, accepter. Juste dire, je suis contente, j'ai fait des études, je réussis, je suis bien. Tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour ces jeunes? Qu'est-ce que je peux leur apporter de plus? Je ne peux pas me contenter que de ma situation, que de mon salaire, que de mon voilà, de ma vie, de mes enfants. Oui, d'accord, j'ai deux enfants, mais il y a plein de choses à faire. Et quand j'ai vu l'état de ces enfants et de tout ce que j'ai pu leur apporter, je me suis dit, on ne peut pas rester à côté. Et donc, j'en ai fait carrément une stratégie. J'ai introduit ça dans notre stratégie. Et donc, j'ai commencé à faire du give back et du mécénat de compétences, un vrai axe. Et ça a changé complètement même l'esprit de l'entreprise. D'être dans une entreprise, quand on est solidaire, ben, ça change même le comportement des équipes en interne. Et donc, après moi, les petits, j'ai pas pu, hein, ça me faisait trop de la peine. Et donc, j'ai commencé à aller travailler plutôt avec les collégiens, les lycéens, les universitaires, d'où Injaz Maghreb, qui est, on a Injaz Tunis, on a Injaz Algérie, on a toute la péninsule arabe, Injaz l'Arabe. C'est l'équivalent de entreprendre pour apprendre en France. Donc, il y a GA, General Achievement en Europe. Et donc, voilà, j'étais bénévole pendant 15 ans. Tous les ans, j'avais une classe. Tous les ans, chaque semaine, je donnais 2 heures de mon temps. Et 2 heures, c'est le temps d'un déjeuner. Alors, si on n'est pas prêt à donner un déjeuner par semaine à son pays, on peut critiquer le système. On peut dire que tout ce qu'on veut sur notre pays, mais si je suis là, c'est aussi grâce au système. Donc, je veux rendre au système ce que je peux apporter. Et c'était un petit peu ma zakat. Il y en a qui donnent de l'argent. Et ben moi, zakat d'Ali, ma zakat, c'est d'aller aider les jeunes, les orienter, inspirer, mentorer, coacher, voilà. Et c'est de là où, et finalement, vous savez, ce que moi, personnellement, je retiens, c'est plein de très beaux regards. C'est le regard des jeunes avec qui je parle. Quand je vois leur regard changer, ben ça, moi, ça me nourrit.
Ça n'a
c'est
pas ça de prix, ça, bien sûr.
Ça n'a pas de prix. On pense qu'on est très altruiste, mais franchement, ce que nous donnent les jeunes quand on leur apporte, pour moi en tout cas, est supérieur à ce que je leur ai donné. C'est énorme ce qu'ils nous ont. Ils nous le rendent tellement.
C'est très intéressant ce que tu viens de nous dire par rapport à ton engagement. J'ai l'impression que ça fait un peu la boucle avec le poste récent que tu viens d'avoir. Tu as été fraîchement nommée directrice de l'engagement citoyen pour le groupe Crédit Agricole Consumer Finance. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce rôle et quelles sont tes ambitions et les objectifs que tu as dans ce rôle?
En fait, bon, moi, ça fait plus de 19 ans que je dirige et j'ai vraiment eu envie de contribuer différemment, de nourrir aussi la marque du Crédit Agricole différemment. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de m'assurer que tous les pays où nous sommes présents, on est présents dans 19 pays en Europe, ont une vraie stratégie citoyenne, une stratégie d'engagement dans laquelle on a défini les axes sur lesquels on compte nous engager vis-à-vis du client, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos fournisseurs, etc., etc. Donc, la première partie de mon poste, c'est de m'assurer que toutes les filiales respectent les engagements qu'on s'est fixés. Et ensuite, le deuxième axe, c'est j'ai créé un fonds de dotation européen qui a comme ambition d'aider les jeunes à accéder aux métiers de demain. J'ai parlé de la connaissance qui aujourd'hui elle est presque éphémère, les méthodes de formation, les méthodes d'apprentissage sont en train de changer et aujourd'hui on a des jeunes qui sont dans des systèmes d'éducation qui sont trop classiques et qui à mon avis ne les préparent pas assez au monde demain, un monde agile, un monde où tout va très vite. Et dans notre métier, nous, on est présent dans trois nouveaux marchés. C'est le marché de la mobilité verte, c'est le marché de l'économie circulaire, la réparabilité, la transition énergétique, des marchés que nous connaissons très bien. Et moi, je voudrais, avec ce fonds, monter des programmes et aider les jeunes à mieux choisir, peut-être dès le collège, mieux choisir leur voie pour être vraiment là où ils sont attendus. Ne pas venir avec des diplômes, avec des formations qui sont décalées par rapport à l'exigence du marché. Et donc, c'est toute ma connaissance du métier, du marché, de l'environnement économique que j'ai envie de mettre à disposition des jeunes. Ça favorise l'égalité des chances, ça favorise l'inclusion, la diversité, la mixité. Ça porte tous ces sujets, mais en aidant les jeunes à mieux comprendre le marché dans lequel ils vont évoluer à la fin de leurs études ou s'ils veulent monter des entreprises, qu'ils comprennent mieux leur écosystème. Donc voilà ce qui me motive aujourd'hui.
Super, super, super. Une dernière question, Leïla. Quelle serait ta définition de la réussite? Pour toi, avoir réussi ta vie, ce serait quoi? En une phrase.
Avoir donné le meilleur de soi-même.
Top. Et qu'est-ce que tu dirais à la Leïla enfant si tu pouvais te parler petite fille?
Je vais lui dire, reste têtue et reste rebelle.
J'adore. On va rester sur ça, je pense que c'est une très belle conclusion pour cet épisode et pour le podcast.
Merci beaucoup, Bouchra.
Je te remercie infiniment, Leïla.
Merci, au revoir.
Au revoir. Bye, bye.
Cet épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout, ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heya_podcast. À très bientôt.